Il y a des passages que je voulais bien lire pour vous poser une petite question après.
Oui.
Quand j'aimais un livre, tous les autres s'évanouissaient. Je le lisais pendant des années jusqu'à ce qu'un autre me révèle à moi-même, me fasse autre. Et même alors, j'avais beaucoup de mal à me détacher de mon ancien compagnon. Je le gardais à portée de la main comme un vêtement usé et rapiécé qui attend dans un placard le voyage de pêche ou les travaux de rénovation auxquels il pourrait encore servir.
Ouais.
Ça, c'est pour la lecture. Si lire permet de se révéler à soi-même, est-ce qu'écrire, c'est essayer, pour reprendre une de vos formulations,
ouais.
Est-ce que écrire, c'est essayer d'étreindre son propre visage?
C'est une bonne question. C'est une bonne question.
Mais je ne veux pas vous coincer.
Non, mais c'est une très bonne question, mais, d'ailleurs, à laquelle vous pourriez très bien répondre. Je vais
non,
vous la retourner tout à l'heure.
Non.
Mais ben, moi, je pense, non, mais je pense que les auteurs qu'on aime, je ne sais pas, moi, je ne lis pas beaucoup. Et je dis toujours la même chose. Je suis un être affreusement fidèle. Même si j'étais pris dans une histoire de triant. Je suis affreusement fidèle parce que quand je lis un livre, comme pour vous, l'inspecteur, quand un livre nous frappe à ce point-là, c'est sûr que c'est comme si le destin frappe à la porte puis qu'il dit « il y a quelque chose pour toi là, il y a quelque chose qui te concerne ». Alors, tu t'épuises pas avec ça dans une seule lecture. Moi, je suis pas allé jusqu'à traduire Virginia Woolf, mais je lis et je relis parce que j'ai l'impression que il y a un secret là qui me concerne et si je veux me connaître vraiment, il faut que j'entre profondément en relation avec l'autre. Donc, je n'ai jamais lu, même si j'ai enseigné à l'université, j'ai eu la chance d'être ignorant et de gagner ma vie à l'université, en racontant à tout le monde que la littérature, c'est une grande aventure. Et que quand on lit, si on lit vraiment, non pas pour se divertir, je ne dis pas que c'est mauvais de lire pour se divertir, mais en tout cas, si on lit comme moi je lis, et comme la plupart des écrivains que je connais lisent, c'est comme une recherche intellectuelle, spirituelle, et qui n'a pas de fin. Donc, les auteurs qui nous ont frappés, mais j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, là. Il y a 15 ans, il dure 15 ans, là, j'ai le premier vraiment... Bon, Félix Leclerc, c'est très spécial, je pourrais raconter une chose, mais c'est autre chose, parce qu'il racontait ma vie d'enfant dans les bois, je suis né en forêt, et un jour, j'avais 14-15 ans, je lis « Pieds nus dans l'eau ». Il est né à La Tuque, puis moi, j'ai passé mon enfance, mon père était jobber, fait qu'on vivait 6 mois par année en forêt sauvage. Alors moi, je lis le livre de Félix Leclerc, c'est ma propre vie. Et ça, c'est un choc incroyable. Ma vie est un livre. Là, parce que je lisais pas, moi, à l'époque, je voulais être un joueur de hockey et tout. Tu sais, alors. Mais là, ça a été un choc. Mais les premiers, après, il y a eu Rimbaud. Mais celui qui m'a vraiment fait écrire, et là, je l'ai lu et relu et relu, et je le lis encore, c'était Rilke.
Ah oui.
Bon, Rainer Maria Rilke, qui est un poète allemand. Du jour où j'ai lu Rilke, je n'ai lu que de la littérature allemande pendant 20 ans. C'était fini. Je n'ai plus lu de littérature française, sauf pour des raisons alimentaires, puisqu'il fallait que j'enseigne la littérature française. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de bon en littérature française, mais c'est un point de vue, comment dire, c'est de la nourriture. Alors, si c'était une nourriture allemande à ce moment-là qui me nourrissait, bien... Allez vous nourrir où vous voulez, moi, je suis là.
Mm-hmm.
Alors, il y a eu Rilke. Après, il y a eu Peter Handke, un Autrichien qui écrit en allemand. Et après, est arrivé Virginia Woolf. Et là, je me dis toujours, c'est des cycles à peu près de 10-15 ans. Puis habituellement, quand je change de coup de foudre après 15 ans, c'est parce qu'il y a un nouveau livre qui arrive. Et là, je me dis, il faut que je trouve quelqu'un pour remplacer Virginia Woolf, sinon je vais réécrire Le siècle de Jeanne. Mais je n'arrive pas à la remplacer, vraiment. Là. Je me force, là. je flirte un peu avec Pessoa, flirte avec du monde, comme ça. Hein? C'est l'autre portugais.
Oui, oui.
D'ailleurs,
Clarisse Lispector disait, moi, je ne lis pas Fernando Pessoa parce qu'il me ressemble tellement.
Bien, c'est sûr. Alors c'est ça, la question des gens qui nous ressemblent, c'est une bonne question que vous avez soulevée tout à l'heure, parce que quand c'est vraiment trop, trop près, moi aussi, je ne suis pas porté à lire. Il faut qu'il y ait une correspondance profonde. Tu sais, quand je pense, Virginia Woolf, c'est aux antipodes. Je suis né au Québec, dans une maison sans lit, j'ai grandi dans le bois, Elle appartient à la grande bourgeoisie londonienne. Mm. Et jamais allée à l'école. Son père lui a fait l'école. C'est un grand écrivain et tout. Il n'y a rien là. Mm. Mais moi, je sais que Virginia Woolf, c'est sans doute l'être le plus près de moi. C'est comme si c'était la meilleure partie de moi qui s'exprime à travers elle. Voilà. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose avec Rilke. Il y a une phrase que je suis toujours de dire tu, mais en tout cas, on va rester à vous, puisqu'on se connaît à peine. On passera au-dessus dans une demi-heure. Mais quand vous avez cité l'inspecteur, c'est pas possible, c'est elle qui a écrit ça.
Oui.
Un jour, je lisais Peter Henke, puis j'ai dit toute ma vie dans une phrase, et elle n'est pas de moi. Alors, ça, je trouve que c'est un destin terrible aussi de la lecture, parce que ces auteurs-là, ils nous tirent. Mm. Mais en même temps, on se dit, bien, dans les moments de déprime, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'écrivais Virginia Woolf a tout dit, en tout cas. L'autre partie de la question, quand on écrit, c'est la même aventure. Je ne vois pas beaucoup de différence entre lire et écrire. C'est une autre façon de faire enquête sur toi. Et ce que les gens comprennent pas quand on leur dit que même si le matériau d'un roman est autobiographique, que c'est un roman, les gens ont beaucoup de mal à comprendre parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience. Si j'écris à partir de quelque chose que j'ai vécu, où est la part de découverte, vont dire les gens? La part de découverte, c'est que quand on écrit, tous les écrivains, ils sont affectés d'une maladie qui s'appelle le dédoublement. C'est pas compliqué. Quand tu écris à partir de toi, tu te dédoubles et la personne dont tu parles, d'une certaine façon, c'est plus toi. Moi, je me rappelle mes sœurs qui ont lu je ne sais plus lequel, puis le pauvre, ils m'ont reconnu, puis en ayant la rage et tout, ils ont dit,
ah, c'est ça.
Comment est-ce que tu as fait pour écrire ça, replonger dans la souffrance et tout? Je n'étais pas souffrant du tout, parce que quand tu écris, c'est comme un autre. Une fois, il m'est venu une phrase qui résumait bien ça. Être romancier, c'est raconter l'histoire de quelqu'un comme si c'était la sienne. Je pourrais inventer tout un destin au clochard qui est là, sans trop de problèmes, parce qu'il y a une partie de moi qui est clochard, ça c'est certain. Il y a une partie de nous. Entre tous qui nous soyons, on a une partie de clochard et il s'agirait que le destin nous pousse un peu dans un sens et on se ferait un abri comme notre clochard qui était là. Donc, raconter la vie de quelqu'un d'autre comme si c'était la nôtre, et raconter sa propre vie comme si c'était celle de quelqu'un.
Oui.
C'est ça qui se passe quand on écrit. Alors,
Vous m'avez écrit, je comprends que vous l'ayez aimé tellement, ce Malcolm.
Oui, bien oui.
Je ne l'ai pas aimé tant que ça.
Non?
Mais non. Oui. C'est parce que j'ai utilisé, même j'ai une amie qui est ici et qui me dit, oh mon Dieu, j'ai pleuré, c'est pas croyable, c'est ce qui s'était arrivé.
Mais il y a une distance.
Mais j'étais pas triste comme ce qui est ici. Qui transparaît dans le roman.
Mais il faut aimer quelqu'un pour écrire comme ça 300 pages ou 250 pages sur lui 20 ans après. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a commencé pendant la relation. On ne fait pas la psychologie ou l'analyse, là, que ça, et qui va être complété par l'écriture. Une chose qui.
L'auteur est terrible.
Oui, bien l'auteur.
J'ai utilisé cette histoire-là qui est incroyable. Il meurt à 30 ans et il me dit avant de mourir, tu vas voir, je vais mourir, ça va te faire un vrai personnage de roman.
Oui, c'est merveilleux.
Ben oui, mais là, je ne peux pas l'écrire, le roman, moi-même, peu importe le degré d'amour que j'avais pour la personne. J'actualise sa prédiction, puis c'est une histoire vraiment spéciale.
C'est quelqu'un de spécial. Mais oui, mais
je l'exploite, là, c'est terrible. Je ne l'aime pas dans ça, finalement.
Ben, moi, je ne dirais pas que c'est exploiter quelqu'un. Gabrielle Leroy raconte quelque chose dans un texte, c'est un texte connu. Un jour, elle se promène, et dans un champ, il y a une vieille dame qui travaille au champ. On connaît cette anecdote. Et les deux regards se croisent. Et la vieille dame, vraisemblablement, sait que Gabrielle Leroy est romancière, ils doivent se croiser et tout. Et Gabrielle Leroy dit, j'ai vu dans le regard de la vieille dame une sorte de supplication qui disait ceci, raconte ma vie.
Ouais.
Raconter la vie de quelqu'un, surtout s'il nous l'a demandé, c'est pas exploiter, c'est répondre à un désir très, très profond qui est dans tout être, ce qui fait qu'on écrit, c'est ce qui fait que les gens lisent aussi, parce que quand les gens lisent, ils se reconnaissent d'une façon ou d'une autre. On a besoin, le sens minimal d'une vie, c'est qu'au moins ça puisse donner un récit, ne serait-ce que de quelques lignes. Si quelqu'un ne peut même pas tirer de sa vie un récit de 10 lignes, il a l'impression qu'il n'a pas vécu. C'est pas rien une histoire. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire une histoire. Alors, le personnage de Malcolm dans Peter Pan, je comprends très, très bien qu'il ait dit et qu'il ait même voulu, parce que sa mort, il m'a beaucoup fait penser à Hubert Raquin. C'est d'ailleurs aussi une partie de l'attachement que j'avais pour le personnage de Malcolm. C'est un être qui, au fond, se suicide parce qu'il boit, il boit, il sait très bien. Et il annonce même sa propre mort. Et d'une certaine façon, c'est de donner à sa mort une sorte de sens en lui disant « Je meurs, mais au moins je meurs pour quelque chose. Je meurs pour toi qui vas en faire un roman. Je te donne, c'est comme un sacrifice. »
C'est quelque chose, hein, finalement.
Mais c'est drôle parce que ça aussi, on parle de miroir. Quand Hubert Raquin est mort, il ne l'a pas dit comme ça, mais dans la lettre, c'est ça qu'il dit. Je reçois la lettre le lendemain de sa mort. Il a écrit 4 lettres avant de mourir à sa femme, à moi, à son fils, puis à une autre personne. Et dans sa lettre, c'est comme s'il me disait, voilà, continue mon œuvre. Moi, ça m'a tué pendant je ne sais pas combien de temps, parce que je me disais, c'est trop lourd, là. J'ai écrit un seul livre. Et puis, ce qui était très, très étrange, on n'a pas du tout le même monde d'écriture, Hubert Raquin.
Non, pas tout.
Non, non.
Non, mais c'est très étonnant. Alors, quand je dis... Pourquoi ça m'a fasciné? C'est ça qui m'a fait écrire Le milieu du jour. Je me disais, mais pourquoi moi j'ai été attiré vers cet être qui
la réponse est ici.
Puis pourquoi lui j'ai était attiré vers moi au point de voir en moi un peu comme son héritier? Là, moi, je ne voulais pas être l'héritier de quelqu'un qui va se suicider. Et j'avais en tête, en écrivant ce livre, il faut que je trouve pourquoi il s'est tué.
L'avez-vous trouvé?
Ben oui, je pense que je l'ai trouvé. Et parce que je ne voulais pas me tuer. Je sentais qu'il y avait... Que si je ne le trouvais pas, j'étais en danger.